Olivier Haïm, Sylvia Girel, Manon Jaillet, Lucie Marinier, Boris Pierrick, Emmanuel Roux ainsi que Pierre Schneider sont attendus sur la scène. Merci.
On va commencer, si vous voulez bien, cette deuxième table ronde, une autre recherche avec et pour les industries culturelles et créatives est-elle possible ? Parmi les sous-questions que nous allons tenter d'aborder avec les uns et les autres, il y a l'accès au terrain, le rapport au terrain des ICC, la question de la communication et de la médiation, comment parler autrement de projets qui visent à faire autrement. Et la question, ça a été évoqué au tout début de l'après-midi, des périmètres, des catégories qui sont peut-être à interroger. Qu'est-ce qui est industrie culturelle et créative, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui pourrait l'être? Là encore, donc, il s'agit vraiment de poser des axes de réflexion et de garder un peu de temps aussi pour les questions. Alors, nous sommes avec Manuel Roux, sociologue, chercheur au sein du laboratoire Talim à la Nouvelle-Sorbonne, chercheur au sein du projet Dédale. Vous travaillez sur le travail artistique aux marges des institutions et sur les nouvelles manières d'apprendre do it yourself et ce que vous appelez l'intelligence punk. Olivier Haïm, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université, enseignant-chercheur au CELSA. Vos travaux portent sur les théories des médias et des dispositifs ainsi que sur les industries culturelles. Dans le cadre du programme ICAR, vous travaillez sur les arts de vivre avec Pierre Schneider, qui est là aussi professeur d'histoire à l'université d'Artois. Sylvia Girel, entre vous deux, sociologue, professeur des universités à Aix-Marseille Université, spécialiste des arts visuels contemporains, des publics et des pratiques, des questions de création, de médiation, directrice de thèse recherche et création, et vous êtes référente recherche et création au sein du programme ICAR. Par ailleurs, vous portez avec trois autres personnes le secteur art visuel au sein de ce même programme. Boris Pietrich, anthropologue et cinéaste, directeur de recherche CNRS au Centre Norbert Elias à Marseille, responsable de la FE, la fabrique des écritures ethnographiques. Vous êtes l'un des fondateurs du salon Focus, un rendez-vous professionnel entre chercheurs et artisans de l'économie créative qui se déroule chaque année en juin au MUCEM à Marseille, et vous êtes référent écriture alternative au sein du programme ICAR. Nous sommes toujours avec Lucie Marinier, donc qui nous accompagne sur les trois tables rondes, titulaire de la chaire ingénierie de la culture et de la création au CNAM. Je redis juste ça, voilà, je synthétise, puis pour la troisième, je dirai plus rien. Et Manon Jaillet, éditrice, créatrice, directrice de La Maison est en carton, qui est une maison d'édition tournée vers l'image avec de l'illustration jeunesse, des séries limitées, des portfolios, des boîte à images. Votre maison est installée dans un petit village des Landes et je précise également que vous avez créé un festival autour de la littérature jeunesse en zone rurale et que vous avez également des fonctions d'élu. Alors, pour entrer dans le sujet, nous allons commencer avec vous, Manuel Roux, avec peut-être une première prise de parole sur donc cette autre recherche, puisqu'on interroge une autre recherche, est-elle possible ? Donc cette autre recherche qui peut être menée dans les marges, et donc les questions que cela pose immédiatement sur les rapports à l'institution, ce lien entre ce que vous appelez les institués et les instituants.
Oui, bah, très, très bonne introduction du coup. Effectivement, alors la question se pose d'entrée de jeu si la nécessité de cartographier et de relever, de valoriser de nouvelles pratiques culturelles ou expériences culturelles en marge. Bon, ben voilà, il y a aussi la nécessité de questionner ces verrous potentiels. Sauf que, effectivement, voilà, les alternatives, par principe, elles débordent des cadres institués, des cadres normalisés, des manières de pratiquer la culture. Et donc du coup, ce qui suppose de prendre à bras-le-corps la question du verrou catégoriel, quoi. Comment les penser, ces alternatives, comment les ramener aussi dans cette chaîne-là, hein, qui lie autant les industries que les marges, ce qui n'est pas forcément évident et qui pose des vrais problèmes de recherche, tant méthodologique que conceptuel. Bon, pour vous donner trois exemples peut-être rapides de terrain là que l'on a déjà engagé, ce qui suppose aussi que peut-être se désengager aussi de terrain si ça ne rentre pas dans le cadre, hein. Il y a aussi potentiellement de ce problème auquel il faut se frotter, hein. Un premier spectacle itinérant qui a lieu entre le Tarn et l'Aveyron qui s'appelle l'Estafette. C'est un camion buvette qui tracte une scène qui est montable en 3 heures et qui propose du coup des concerts de musique actuelle dans des zones rurales qui ne sont pas équipées pour accueillir ce genre de concert. Et en même temps, ça ressemble à un concert de village assez classique. On est entre les deux. Comment on pense cet événement-là ? qu'est-ce que le public vient chercher là-dedans, comment voilà, il perçoit ça, et puis aussi comment elle valorise aussi quelque chose qui serait une culture très territorialisée, sachant que c'est des concerts souvent d'artistes qui viennent du coin. Un autre exemple, un squat bordelais. Donc celui-là, par exemple, on ne sait pas si on va continuer, mais il est assez intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les métropoles, les conditions d'accès au logement, c'est très compliqué. Ça va avec la fermeture de lieux aussi alternatifs, évidemment. On a des squats qui, avec des maisons qui sont laissées en jachère, je dirais, pour des projets immobiliers, sauf qu'on a une crise du logement qui accueille autant des personnes. Là, on a des familles hein, dans ce squat-là bordelais, hein, avec des enfants qui seront scolarisés là, cette année. Et en même temps, qui accueille des concerts, une vie culturelle dans cet espace-là. Donc, on est autant dans un service public de droit à l'accès au logement que aussi une volonté de recréer un lien étroit entre une expérience culturelle au plus proche de ce que ça veut dire, l'expérience culturelle, contre, je dirais, une idée de ce que pourrait être une vision de la pratique culturelle instituée qui serait à distance des acteurs. Voilà. Et enfin, du coup, un autre exemple, les artistes corses, ça fait le lien avec la première table ronde, qui ont peut-être, notamment pour les musiciens, des difficultés à se professionnaliser dans le cadre de l'intermittence, qui est quand même une exception française. Mais une exception française, effectivement, sur le continent. Faire des tournées en Corse, c'est très difficile. Comment on continue à être artiste ? Comment on continue ? Et ce qui suppose aussi la question des moyens, comme l'avait dit Yolaine, hein, ce qui est quand même assez crucial. Voilà. Comment est-ce qu'il y a une autre professionnalité, une autre professionnalisation qui est en train de se créer ? Laquelle est-elle ? Comment la décrire ? Comment la penser ? Et aussi, avec ces questions-là, en tant que chercheur, comment nous, on accède au terrain ? Pour reprendre cet exemple de l'estafette, comment on est perçu en tant que chercheur ? Voilà, moi, j'étais avec un verre à la main, dans le public, en train de poser des questions. Je me présentais comme ça, sans carte, encore une fois. Hein, Luc en parlait. Quand on n'a pas de carte pour se présenter comme certains journalistes, il y a ce problème-là. Donc, pour des personnes qui ne connaissent pas très bien ce que c'est que notre travail, on nous a demandé si on était policier, qu'est-ce qu'on faisait là. Voilà, des questions toutes bêtes, mais qui sont légitimes. Et donc, voilà, on arrive, on dit, bon, on est chercheur, est-ce qu'on pourrait vous enregistrer pour se souvenir, voilà, pour les données sociologiques aussi. Donc, on demande des données d'âge, catégories socio-professionnelles, etc. Donc, ça peut très vite être mal perçu, en fait. Et tout cela dans un cadre festif, qui se prête peut-être mal avec l'image sérieuse que l'on se donne des chercheurs. Est-il vraiment chercheur celui-là ? Voilà, toutes ces questions qui se posent. Et donc aussi, on peut se confronter à des verrous qui seraient idéologiques. Mais encore une fois, des deux bouts de la chaîne. Hein. Autant un verrou idéologique de la part des marges, et comme le dirait Luc qui pose la question de comment réussir sans se trahir, hein, quand on vient de milieux où on revendique une forme de contre-culture, d'une culture contre, pour reprendre les éléments qu'on développe avec Pind, questionner cet élément-là, si on veut créer un continuum entre les industries, la puissance publique et ses marges, mais aussi un verrou de la part de nos institutions pour pouvoir légitimer, valoriser, comprendre ces marges de ce qu'elles peuvent apporter. Donc il y a ces éléments-là qui ne sont pas forcément simples, et encore une fois, je le redis, mais on aimerait se situer à l'interface entre ces deux bouts de la chaîne, et ce qui n'est pas évident, d'intermédiaire entre ces différents acteurs, et ce qui suppose du coup de créer une culture commune, comme disait Luc, c'est énormément important. Comment on parle avec autant d'acteurs ? Comment on fait pour créer un langage commun permettre de se comprendre, quoi.
Alors, justement, Sylvia Girel, c'était l'idée de rebondir avec vous sur cette question du langage commun, comme ça a été dit effectivement plus tôt, parce que vous, donc, qui travaillez sur la recherche-création, vous vouliez nous rappeler notamment, effectivement, le fait que quand on parle d'industrie culturelle et créative, selon qu'on est le public, disons, voilà, les usagers ou le public, ou qu'on est artiste, ou qu'on est chercheur, on parle pas forcément exactement de la même chose, en tout cas, on ne vit pas les choses de la même manière. Et donc, peut-être, en prolongement de ce que vient de dire Manuel, vous pouvez développer ça un peu.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'en croisant le regard sociologique et le regard recherche et création, hein, on a des réponses, grâce à la recherche-création, sur des questions sociologiques de fond et de base. Quand on parle des industries culturelles et créatives, là, on est tous ensemble, on sait de quoi on parle, hein, on se comprend tous. Mais en même temps, si on est chercheur, c'est un objet de recherche. Si on est politique, hein, c'est un travail, et il y a des politiques à mener sanctionner, des dispositifs à mettre en place. Si on est public, c'est un loisir, c'est nos pratiques culturelles. Les publics, j'ai envie de dire, ils s'en fichent qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Eux, c'est pas leur propos, c'est pas leur question. Et si on est professionnel des arts et de la culture, c'est un travail, c'est un mode de vie quotidien. Donc ça pose plusieurs questions sociologiques, mais vraiment de fond, sur des questions de représentation, de posture, de registres, de normes, de valeurs, mais aussi sur des questions de temporalité. La temporalité d'un spectateur, d'un visiteur, d'un amateur d'art qui est là dans le cadre de ses loisirs, de la culture, du plaisir, et la temporalité d'un professionnel qui doit gagner sa vie, qui doit gérer des équipes, la temporalité d'un politique qui a des dispositifs à mettre en place, des comptes à rendre, c'est pas les mêmes. Et donc à un moment donné, si on peut être d'accord sur une définition, et je pense que maintenant on est à peu près tous assez d'accord que le monde des arts et de la culture et le monde des industries culturelles et créatives se rejoignent, c'est plus l'entrée par laquelle on va s'y intéresser qui compte, en même temps, dès qu'on va s'intéresser à une personne, un public, un positionnement, on va avoir des définitions et des positionnements différents. Et je pense que c'est ça aussi qui est vraiment au cœur de la recherche. Et la recherche création.
Oui, voilà, et donc justement, oui. Et en quoi la recherche création est une voie possible ?
Alors, la recherche création, et je reprends le terme que tu as utilisé sur le terme d'interface, la recherche création, elle se situe à l'interface et elle permet de venir interroger les mêmes objets par différentes entrées. L'entrée classique, ce que je pensais en t'écoutant aussi présenter, c'est que nouvelle recherche, autre recherche. Moi, je suis pas tant sûre que ce soit nouveau, différent, inédit. Je pense plutôt que ce qui est nouveau, inédit, et c'est de le reconnaître, de le valoriser et de le faire de manière tout à fait légitime. Mais qu'on ait, je pense, beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui, ce travail-là, on le fait de cette manière-là depuis longtemps. La recherche-création, ce qu'elle permet, c'est de se situer à l'interface dans une démarche qui est exploratoire, expérimentale, un travail collaboratif entre des chercheurs qui ont leurs outils, leurs notions, leurs concepts et leurs manières de travailler, donc qui vont produire des connaissances avec des processus cognitifs et des manières de faire qui sont celles de chercheurs, et des artistes, des créateurs, qui eux vont utiliser d'autres outils, d'autres manières de faire. Et c'est là, je pense, un petit gap à passer qui est important, c'est qu'on fait tous de la recherche pour nos recherches. Qu'on soit artiste pour créer des œuvres ou chercheur pour faire un article de sociologie ou une enquête sociologique. Mais la recherche-création, c'est différent. C'est comment on arrive à mettre ensemble des manières de penser, des manières de produire des connaissances qui sont différentes et qui vont faire qu'un même objet, on va le regarder différent. L'exemple que j'ai pris quand on a échangé et discuté, c'était celui d'une thèse de recherche et création, justement, sur une de mes doctorantes qui est sourde et qui fait une thèse de recherche et création sur la condition sourde. Comment en parler ? Il y a les études sur le handicap, les études en sociologie, en anthropologie, enfin il y a vraiment beaucoup en médecine, en psychologie, beaucoup d'études, mais il y a des choses qu'on peut pas dire. Et elle arrive et elle parvient par ses vidéos ou par ses performances à nous faire ressentir ce que c'est que d'être sourd pour des personnes qui ne le sont pas. Et ça, l'art peut dire des choses que seul l'art peut dire de cette manière-là. Y mettre en plus la réflexion et le questionnement scientifique permet de poser des choses et peut-être de produire des résultats ou des analyses souvent qu'on ne peut pas produire autrement. Et moi, j'y vois tout l'intérêt ici, c'est-à-dire réinterroger des questions qui sont des questions transversales, fondamentales de toutes les disciplines des SHS, mais comme on les interroge par la recherche-création et par le croisement de l'approche scientifique et artistique, ça produit forcément des choses. Et là, je rejoins, au niveau des publics, mais au niveau aussi des acteurs ou des gens qui sont parties prenantes, ça produit un changement. Et c'est ce qui me semble aussi très intéressant en tant que chercheuse, une réflexivité aussi sur ses propres manières de travailler ou de penser ces objets. Voilà, moi, en tout cas, c'est vraiment le lien que je fais et l'intérêt que je trouve dans la recherche-création.
Alors, le autrement du titre, effectivement, je pense qu'il ne veut pas forcément dire nouveau ou inédit, mais peut-être une autre recherche, c'est recherche autrement, en tout cas, peut-être de manière un peu moins, traditionnelle ou conventionnelle. Et à ce titre, donc, on poursuit avec vous, Boris, sur les écritures alternatives, puisque vous êtes référent écriture alternative au sein du programme ICAR. Peut-être que vous pouvez nous rappeler quand même, nous expliquer ce que sont ces écritures alternatives, ce qu'elles peuvent apporter à la recherche, et nous dire aussi si c'est une approche qui correspond particulièrement à certains sujets, certains domaines, et donc notamment les industries culturelles et créatives.
Merci Chloé pour cette introduction. Effectivement, en fait, j'ai été responsable d'un GDR, c'est-à-dire un groupe de recherche national, dans lequel nous avons réfléchi à, à des pratiques en fait qui sont assez courantes chez un certain nombre de chercheurs qui utilisent le film, la photo, le dessin dans leur recherche. Et nous avons souhaité appeler écriture alternative, donc en fait cette notion qui aujourd'hui s'est répandue et assez commun dans notre milieu, vient de ce collectif qui a dit, ben, en fait, écrire, c'est pas seulement le texte, sous forme d'article ou sous forme de livre, on peut écrire avec de la musique, on peut écrire avec un film, on peut écrire avec le dessin. Avec cette idée toute simple aussi, c'est que le potentiel de l'image et du son apporte une dimension sensorielle importante pour travailler des questions épistémologiques et des questions de recherche, en fait. Voilà, donc cette idée d'écriture alternative enrichit l'idée que l'écriture, c'est pas seulement le texte, c'est aussi utiliser le potentiel du son et de l'image.
Alors, on a une vidéo qui va nous montrer quelques exemples, c'est ça, réalisée donc au sein de la FAE.
Oui, alors donc, il y a 10 ans maintenant, j'ai créé un lieu à Marseille qui s'appelle la Fabrique des écritures ethnographiques, avec cette idée que pour observer, décrire et analyser des phénomènes sociaux, le potentiel de l'image et du son apporte quelque chose en soi. Donc le film n'est pas seulement un acte de communication, de valorisation, de dissémination pour des publics, mais c'est tout ça à la fois, et aussi sur des questions centrales sur un certain nombre de phénomènes sociaux. Donc on a fait un petit film qui rassemble en fait tous les films que nous avons produits depuis 10 ans, et je crois qu'il dure 2 minutes 24, c'est ça. Donc si je peux commenter le film, on voit bien que donc on a un souci de filmer les interactions entre les humains, mais aussi entre les humains et d'autres mondes vivants, qui est une grande question écologique aujourd'hui et qui nous anime en particulier, le rapport aux animaux, mais le rapport aussi aux végétaux. Le monde sous-marin est aussi un monde, par exemple, social. On est en train de faire un film expérimental avec des océanographes pour changer la perception que nous avons du monde sous-marin, comme un monde en soi. En fait, nous cohabitons, parce que nous sommes présents sous la mer de différentes manières, par nos loisirs, par nos activités commerciales, économiques, les câbles, il y a du bruit, il y a des sons dans la mer, enfin bref. Tout ça pour dire que nous avons donc à double titre un rapport avec les industries culturelles. Alors moi je préfère parler d'économie culturelle, parce que nous travaillons avec beaucoup d'artisans de l'économie créative, des artisans de pointe, des intermittents du spectacle, des ingénieurs du son, des réalisateurs, pour réaliser ce genre d'aventure et d'écriture collective. Parce que ce qui est important aussi, c'est que ce type de démarche implique souvent une mobilisation d'un collectif qui va écrire à plusieurs mains, comme un orchestre qui produit de la musique. Et ce que nous cherchons un peu à retrouver, c'est pas quelque chose qui est très innovant, mais c'est en fait l'esprit du cabinet des curiosités, qui finalement au 19e ne faisait pas de différence entre les artistes, les savants, les chercheurs ou les musiciens. Et ça, je pense que c'est important dans un monde où on nous catalogue, nous catégorise dans des métiers, dans des institutions. Et c'est un peu voilà, la démarche qui est au cœur de la FAE aujourd'hui.
Et on parlera de Focus après, comme justement un lieu de rencontre aussi important pour revenir sur le langage commun. Mais juste une chose rapidement, vous disiez une autre dimension sensorielle, dimension sensible aussi quand même, non ?
Bien sûr. Je pense que pour toucher aussi des publics sur des questions sociales, c'est important de faire appel aux émotions, aux sensibles, pour mieux percevoir, regarder, changer le regard sur certains phénomènes. Et de ce point de vue-là, la photo, le cinéma ou le son apportent en soi quelque chose de très important pour la recherche en sciences sociales.
Alors faire autrement, à un autre endroit, mais faire autrement, c'est ce que vous faites aussi, Manon Jaillet. C'était en tout cas votre volonté lorsque vous avez créé donc votre maison d'édition. La maison est en carton en 2007, ça. Peut-être que vous pouvez nous parler en fait de ce projet dans sa dimension qui résonne avec ce dont on parle aujourd'hui. Mais en fait, à savoir ce que vous m'avez dit quand on avait parlé, c'est-à-dire... au départ, il y avait à la fois la volonté de votre part de permettre aux créateurs en marge d'exister et de permettre à un plus grand nombre d'accéder à de la création.
Oui, mais l'idée de départ, c'était de proposer un espace où on pourrait rentrer dans l'écrit et l'image différemment. Parce que l'objet livre, parfois, pour certains publics, il est un peu effrayant. Moi, j'ai d'abord travaillé pour des maisons d'édition, livres jeunesse, Rouergue, Rue du Monde, enfin, assez classiques. Et l'idée, c'était de proposer à ces créateurs qui sont assez enfermés dans l'album ou dans le livre jeunesse et qui, il y a aussi des demandes de livres à sujet ou qui répondent à des questions de parents avec moins d'espace pour de la création pure, quoi. Dire je fais une image juste parce que j'ai quelque chose à dire avec cette image ou j'ai quelque chose à dire avec ce texte. Donc voilà, la maison en carton, c'est un espace où les créateurs vont arriver avec des projets et on prend le projet et on cherche ensemble quelle est la meilleure forme. Et si ça doit être un livre, c'est un livre, mais si ça doit être un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes. Et avec l'idée de faire le plus bel objet possible, aussi avec une exigence graphique et de fabrication, avec des papiers toujours issus de forêts durablement gérées, avec de l'impression en France ou un peu plus loin selon la fabrication spécifique qu'on veut faire. Vraiment, voilà, si on fabrique, on pense l'ensemble.
Peut-être vous pouvez nous citer quelques exemples aussi de projets qui sont pour montrer que c'est aussi une action en fait.
Oui, je pourrais pas. Il y a aussi une partie accompagnement de projets à la marge qui se font et les faire exister dans un livre dans le circuit éditorial classique. Donc je vais prendre l'exemple de la prison de Pau. Donc c'est un homme de théâtre qui allait faire des ateliers sur l'idée de parentalité avec des hommes dans la prison des hommes. Donc il y est allé uniquement avec du papier blanc. Parce que les ciseaux, c'est compliqué. Enfin voilà, ils ne pouvaient pas emmener beaucoup de matériel et il leur a proposé de créer des images qui leur évoquent la parentalité, qu'ils soient pères ou pas. Et ressorti de là un catalogue d'images fabuleuses. Et il me dit, est-ce qu'on ne peut pas éditer un catalogue d'images des détenus ? Je lui dis, bon, enfin moi je ne voyais absolument pas l'intérêt et surtout quel public, quoi. Donc je lui ai proposé qu'on fasse un vrai livre et qu'on confie ces images à un auteur. Alors oui, il allait choisir des images dedans, mais... Et pendant qu'on travaillait sur ce projet-là, le département a entendu parler de ça et on dit, si vous faites un livre de naissance, on l'offre aux enfants du département. Donc j'ai dit, d'accord, mais à condition que vous nous laissiez faire comme on veut. Je ne changerai pas un mot parce que c'est un peu compliqué quand on a des projets comme ça et qu'il y a des institutions, parfois, ils veulent orienter et que ça, qu'il y ait un message qu'ils attendent. Donc, on a eu carte blanche. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est un livre qui s'appelle « Beau jour tout blanc ». C'est un livre... Alors, moi, j'aime pas dire jeunesse parce qu'en fait... Les textes, enfin, on est tous des enfants et chacun va y voir une portée différente, quoi. C'est pas des petites comptines, c'est du vrai texte poétique qui évoque l'arrivée d'un enfant. Donc ça a donné, voilà, ce livre, il est vendu en librairie comme n'importe quel livre. Et il a rencontré un public de lecteurs et pas un public qui s'intéresse aux détenus en prison. Voilà, c'est ce qui m'intéressait dans la démarche.
Il y en a plusieurs des exemples comme ça, vraiment de livres issus de projets.
D'accompagnement comme ça, de projets artistiques sur le terrain qui deviennent, qui existent dans sur le terrain du livre.
Alors, on va poursuivre après tout ce qui a été dit, ce premier tour de table avec vous, Olivia Haïm et Pierre Schneider, parce que on a parlé plusieurs fois déjà depuis le début de la question des périmètres, des catégories, des catégorisations. Et donc, tous les deux, au sein du programme, vous travaillez donc sur les arts de vivre. Alors, il faut nous expliquer de quoi on parle et puis en quoi, justement, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'ICC alternative ou d'ICC... qu'est-ce qu'on aurait à gagner, et vous surtout du côté des chercheurs, à considérer ces arts de vivre peut-être autrement?
Très bien. Oui, c'est la question. Alors, je vais commencer par un tout petit préambule. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Les débats sont passionnants. J'ai un mal de mer, vraiment carabiné. Je vous jure que c'est vrai. J'ai pris un cachet, mais ça m'a... fait gonfler la... Voilà, je vais quand même essayer de dire ce que j'avais prévu, mais je suis aidé par Pierre Schneider à côté de moi, qui fait aussi partie donc de ce secteur qu'on avait qualifié au départ d'émergent. Il y a aussi Frédéric André Cazin qui est dans la salle avec nous, d'émergent. Alors d'alternatif aussi, ça peut paraître étonnant, voire incongru, effectivement, lorsqu'on parle de marge, de parler de nos objets, c'est-à-dire l'œnologie, la gastronomie, le luxe. Et puis un autre objet qui nous intéresse, qui m'intéresse particulièrement, j'essaierai d'en dire quelques mots, l'hôtellerie, qui sont aussi en fait des objets, alors qui ont aussi des points de contact avec d'autres secteurs, je pense à la mode, je pense aussi au musée, au patrimoine, mais qui effectivement ne sont pas immédiatement définis, identifiés comme des ICC à part entière. Donc comme l'a dit Luc en entrée, on est typiquement dans le cas, on va dire, peut-être d'un questionnement de type catégoriel, parce que les objets que j'évoque, en fait, ils ont une épaisseur historique sociale très forte. Enfin, je veux dire, la gastronomie née avec l'hôtellerie, je ne vais pas faire trop de choses historiques, mais César Ritz rencontre Auguste Escoffier et ça crée tous les modèles actuels, en fait, de ce qu'on doit quand même qualifier effectivement de pratiques d'économie qui ont une dimension culturelle. Donc l'enjeu pour nous, ce serait effectivement de, même si j'entends bien ce que disait Sylvia, c'est-à-dire que effectivement les acteurs eux-mêmes s'en moquent un peu peut-être, hein, de la manière dont on les qualifie et qu'on les qualifie de d'ICC ou pas, mais l'idée c'est quand même pour nous d'essayer de comprendre ce qui se passe, hein, d'un point de vue on va dire culturel, avec ces pratiques économiques industrielles. Ce sont des industries, ça tend parfois même vers l'art, les arts de la table, l'esthétique, mais ce n'est pas qualifié effectivement d'industrie culturelle. L'enjeu, c'est pas un enjeu, je dirais, qui consiste purement de manière définitoire à mettre une nouvelle étiquette sur ces pratiques, mais d'essayer effectivement dans une perspective qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est-à-dire un peu exploratoire, expérimentale, incoative, hein, qui démarre, d'essayer de comprendre comment on peut éclairer culturellement, avoir un nouveau regard sur ces pratiques-là. Il y a deux hypothèses sur lesquelles on part. C'est qu'on a l'impression que ces industries-là sont de plus en plus dans des logiques de valorisation par la culture. Et ça, c'est un phénomène qui nous semble intéressant. Je prendrai deux exemples et puis je vous donnerai la deuxième hypothèse ensuite. C'est que Tout à l'heure, on parlait de la Corse, on parlait de ses atouts. Je pense au vin corse, par exemple, à la gastronomie. On voit que territorialement, dans un enjeu de, aussi de valorisation territoriale, depuis 5 ans, une dizaine de cités des vins ont ouvert partout, partout en France, enfin là où, dans des régions effectivement viticoles, je pense à la Bourgogne, au Bordelais, mais aussi à la Champagne, etc. Donc des cités qui ont une prétention muséologique, culturelle très forte. Et effectivement, qui permettent de valoriser par la culture les territoires et autour de l'œnologie. Puis je pense à un autre exemple qui m'intéresse plus personnellement, c'est celui donc des hôtels. On voit que le secteur immobilier, en tout cas nous disent les économistes, est sinistré, sauf dans un domaine, l'hôtellerie. Et vous avez un nombre d'hôtels, et pas forcément que de luxe. Il y a une industrie de l'hôtellerie qui se développe, et notamment il y a un petit phénomène assez intéressant, mais très prégnant autour des hôtels littéraires. Et la semaine prochaine, à Nancy, va ouvrir le Stendhal, par exemple, et va prolonger toute une collection d'hôtels.
Ça veut dire quoi, hôtel littéraire, du coup, alors, au-delà du nom ?
Exactement, mais c'est ça la question. C'est ça qui moi, personnellement, m'intéresse. Ce sont des hôtels qui, autour d'une figure littéraire, donc vous avez la Maison Proust qui vient d'ouvrir à Paris, vous avez aussi le Swan qui est là depuis une dizaine d'années, le Rimbaud, etc. Bon, il y en a plus d'une dizaine, vont en fait avoir une prétention, là aussi culturelle, de vivre une expérience culturelle et autour de cette économie-là. Et même, alors peut-être pas muséographique comme dans le cas des Cités du Vin, mais pour employer un autre terme, qu'est-ce que je pourrais dire ? Muséoïde, voilà. C'est-à-dire que vous allez dans ces hôtels et vous avez des vitrines, des frises chronologiques, des cartels, plein de médiations, en fait, plein de médiations de type muséal. Et ça, sont des phénomènes qui sont très prégnants, qui nous intéressent effectivement dans des nouvelles promesses touristiques autour de la valorisation culturelle. Et donc ça m'amène à ma deuxième hypothèse, et je fais que l'énoncer, c'est que dans le cadre des arts de vivre, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, on a affaire à des reconfigurations. C'est très dynamique. C'est-à-dire, pour employer un autre terme, tout à l'heure, Solveig parlait de l'importance de la mythologie grecque, des hybridités. Peut-être que notre secteur pourrait s'appeler le Minotaure de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment des promesses comme ça de mélange, d'hybridité autour du tourisme, de la culture, de l'art de vivre. Voilà. Et puis il y aurait donc un autre champ et qui serait le luxe. Et peut-être que Pierre, tu veux en dire quelques mots ?
Et bien, peut-être, du coup, je mets une question en plus pour vous aussi en complément. Mais puisqu'on parle de lever des verrous, là, en fait, qu'est-ce que ça permettrait de lever comme verrou, c'est la première question. Et la deuxième, quels sont les freins ? C'est-à-dire pourquoi jusqu'à présent, ça n'est pas considéré comme industrie culturelle et créative ? Est-ce que par exemple, l'une des questions, c'est la dimension artistique ou pas ? Sans parler de culture légitime ou quoi, mais c'est un peu l'idée quand même.
Moi, comme vient de le dire Olivier, c'est plutôt le luxe qui m'intéresse. Alors, je me permets de prendre la parole quelques secondes pour dire pourquoi je parle du luxe et que vous ne me preniez pas pour un représentant caché de Boucheron ou Van Cleef. Je suis historien de l'Antiquité, je travaille sur les connexions Orient-Occident, sur la société romaine d'il y a 2000 ans qui avait une élite avide de luxe, de perles, de diamants indiens, de tout ce que vous voulez, et qui donc a connu la même crise des valeurs que connaissent toutes les sociétés qui sont confrontées au luxe au XVIIIe siècle. Et ce sont des questionnements qui sont analogues à ceux que se pose le luxe aujourd'hui et la société aujourd'hui, y compris les questions environnementales. Pour revenir aux questions de fond, moi j'avais beaucoup réfléchi à la notion de marge, hein, qui est quand même au cœur de Dédale. Peut-être qu'effectivement, Boucheron, Guerlain, ça fait bizarre d'en parler ici, et peut-être que nous qui sommes ici trouvons que c'est quelque chose qui se trouve aux marges des industries culturelles et créatives. Si on va de l'autre côté, du côté du luxe, qu'on lit par exemple les brochures du comité Colbert, qui est le comité qui regroupe les industries du luxe, il est évident qu'ils se perçoivent pleinement comme étant industrie créative et comme étant industrie culturelle. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour eux. Industrie parce qu'ils ont tous leurs métiers d'art, et culturelle, pour donner un seul exemple, parce qu'ils sont capables de s'approprier des artistes. Et ils sont dans une position dominante. Hein. Ils n'ont pas besoin de subsides d'État, eux, pour vivre. Ils se portent fort bien. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont en marge aussi, parce que la relation avec les industries culturelles et créatives dont nous parlons maintenant, eux ne l'aperçoivent pas. S'il y a une autre marge, ça va un peu répondre à votre question, c'est que je pense, pour ce qui est de la recherche académique, je crois qu'ici, il y a vraiment un verrou, dont l'objectif, ça sera peut-être pour nous de le lever. Je crois que, vu du côté du luxe, la recherche académique n'intéresse pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi se méfient-ils de nous, ou alors estiment-ils qu'ils n'ont pas besoin de nous. C'est possible, mais il y a vraiment un fossé entre les deux qui n'est pas infranchissable, puisque des collègues de l'école des hautes études en sciences sociales viennent de monter un partenariat avec Cartier, mais c'est quelque chose de totalement inouï. Hein. Je crois que même au colloque d'avril, quand le directeur de l'HESS est venu présenter ce partenariat, il n'en trouvait pas lui-même ses propres mots. Il y a ici peut-être il faut ici s'apprivoiser, montrer à ces secteurs, je parle surtout dessus du luxe que je connais, qu'il y a quelque chose à tirer de la recherche académique, parce qu'on est sur les mêmes champs. Pour donner un seul exemple, ils sont très attachés au temps très long. Un des slogans du comité Colbert, c'est que le luxe est le plus ancien des métiers d'avenir. Or, le temps très long, c'est celui de l'histoire. Et donc, il y a ce rapprochement à effectuer, ce verrou à faire sauter. Et si nous y parvenons au terme du Roi Micard, je pense que là, pour le coup, il y aura en France, dans le secteur des ICC, quelque chose de tout à fait unique.
Alors, évidemment, je pense que ça peut être intéressant de vous faire réagir tous les deux, Sylvia Girel et Boris, mais on va d'abord quand même donner la parole à Lucie Marinier pour, si on regarde ce sujet-là par l'entrée transition écologique, transition énergétique, puisque c'est ce que vous regardez au sein de ce programme. Qu'est-ce que ce serait une autre recherche avec et pour les ICC?
Déjà, ça implique de poser la question au regard de la question écologique de ce que c'est qu'une industrie. La Cité des sciences et de l'industrie a traité cette question l'année dernière autour des évolutions industrielles pour expliquer que ça ne date pas de la révolution industrielle. Mais le principe de l'industrie, c'est utiliser des ressources matérielles au premier chef et intellectuelles pour créer des concepts, des idées dont vont découler des objets ou des services qui vont être consommés. Ça, c'est l'industrie. Et donc forcément, si on regarde cette question au regard du prisme écologique, on doit s'interroger sur cette question et sur la façon dont la création, en ayant un rapport à l'exceptionnalité, en ayant un rapport à l'objet qu'on va conserver, y compris en ayant en tête les notions patrimoniales, on va potentiellement remettre un petit peu en cause cette notion de consommation d'objets manufacturés ou pas, à grande échelle et à grande quantité. Donc ça, je pense que c'est la première question qu'on peut ensemble se poser. Et puis ensuite, il y a, je crois, trois axes de recherche. Le premier, c'est les sujets et les questions de recherche ayant trait à la culture qui traite des enjeux socio-écologiques. Donc d'abord, l'art écologique, les artistes qui traitent du vivant, de l'enjeu des ressources, des enjeux climatiques, etc., qui nécessitent une observation de recherche aujourd'hui, dans quel cadre ils s'expriment, est-ce qu'ils peuvent être conservés, est-ce que leurs œuvres peuvent être conservées au musée ou pas, diffusées comment, etc., etc. Et puis les professionnels de la culture qui essayent de faire autrement, et notamment la façon dont ça bouleverse les légitimités des acteurs professionnels de la culture, notamment parce que quand on essaye de produire de façon éco-responsable un objet culturel, eh ben, ça ne peut pas être le supplément d'âme qui vient au bout de la chaîne. Il faut que cette question de la production éco-responsable, elle soit posée dès la création en réalité. Donc ça bouleverse beaucoup de choses sur le caractère linéaire de production des projets artistiques et culturels, et ça bouleverse les organisations et les légitimités. On ne peut plus avoir d'un côté la part artistique, créative et curatoriale, en fait, et programmatrice, puis seulement après la part de production, de médiation, de diffusion, où on va se poser la question de l'éco-responsabilité. Il faut la poser plus tôt. Donc ça interroge les processus. Donc le premier champ de recherche, c'est effectivement la culture qui se pose la question de l'écologie, soit dans ses contenus, soit dans sa façon de produire. Le deuxième grand axe, à mon avis, de recherche, c'est la mesure de l'impact écologique de la recherche elle-même. sur ces sujets. C'est-à-dire, en tant que chercheur, comment continuer à avoir des terrains internationaux en se déplaçant peut-être un petit peu moins, comment on fait en sorte de mesurer les bilans carbone et les autres bilans, par ailleurs, parce qu'il y a d'autres limites planétaires que l'enjeu climatique et l'enjeu carbone de nos laboratoires. Il y a toute une série d'acteurs aujourd'hui, comme Labo 1.5, comme d'autres gens, qui essayent de travailler à cette notion de la recherche responsable. Il y a beaucoup de chercheurs et de doctorants qui essayent de travailler là-dessus. Et puis, la dernière chose, c'est en quoi les nouvelles manières de produire de la recherche vont participer à cette, et pas seulement à la prise de conscience, mais à la transition écologique elle-même. Donc, par le biais des recherches citoyennes, notamment, de la collecte citoyenne de données, par la question de la recherche ouverte, qui va potentiellement permettre des partages de données qui évitent une consommation de ressources où on va rechercher les mêmes données en situation de concurrence, et ça c'est un élément important de la recherche, c'est évidemment le fait de développer l'art de l'enquête et également la question de la recherche-création qui permet de penser différemment la question du petit, du sensible, de la marge, etc. Toute cette question des nouvelles formes de recherche, elle participe potentiellement des transitions socio-écologiques, y compris dans le rapport au public. Donc je pense que ça peut être une façon très transversale de penser dans le cadre globalement d'ICAR et de Dédale en particulier, ces enjeux-là.
Alors avant de passer aux questions, peut-être rapide réaction à tout ce qui a été dit, Sylvia Girel.
Oui, moi il y a quelques éléments qui me semblent importants dans tout ce qui a été dit, qui est très transversal. La première chose, c'est que les changements, ils sont pas forcément concrets, pratiques, mais ils sont aussi des changements de représentation, c'est-à-dire de manière de se représenter les uns les autres et de travailler ensemble les uns avec les autres. Et dans ce que j'entendais, moi je vois beaucoup la question de l'importance des processus, c'est-à-dire de pas être seulement sur l'observation et la réception des objets. Moi, je travaille sur l'art contemporain, sur les œuvres d'art contemporain qui traitent de la mort, du corps, de sujets difficiles parfois. Et on voit bien que c'est aussi le processus de création qui est intéressant à discuter, à mettre en question, et pas seulement l'objet, l'œuvre qu'on va donner au public. Le deuxième élément qui me semblait important que j'ai entendu, c'est cette défiance et résistance, effectivement, qu'on a tous, mais d'un côté et de l'autre. Moi, je le sais, je suis sociologue, j'ai aussi été testée souvent sur le terrain, à me retrouver dans des caves à Marseille pour aller faire mon terrain sur l'art contemporain, et où on me testait qui j'étais, ce que je faisais là, pourquoi, quelles questions j'allais poser, qu'est-ce que j'allais en faire. Et cette défiance et résistance, elle est des deux côtés, elle est aussi du côté des chercheurs. Moi, j'ai quand même entendu, il n'y a pas si longtemps, je citerai pas de nom, mais un DR dire dans une réunion collective où j'organisais un événement sur recherche, création, art, science, et donc je proposais des œuvres, et disait oui, mais attention, c'est sérieux l'événement qu'on fait. Donc l'œuvre et le fait de mettre des artistes donnaient une connotation pas sérieuse à l'événement, alors qu'à mon sens c'était l'inverse, ça montrait une autre manière de traiter le sujet. Donc cette défiance, elle est des deux côtés. Et aussi les chercheurs qui parfois, je dois le dire, sont pas très au fait de ce qui se passe concrètement sur le terrain et de l'actualité des recherches, de l'avancée des recherches, où on a parfois l'impression du côté de la recherche d'être très au fait de ce qui se passe, et c'est pas toujours vrai. Faut vraiment être beaucoup, beaucoup sur le terrain, et ça, c'est pas donné à tous les chercheurs, et je pense que c'est un point important. L'autre élément que j'ai noté, mais qui revient aussi aux tables rondes précédentes, c'est la question des échelles. Et en fait, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à penser autrement les échelles au niveau des petits groupes, au niveau de l'individu, au niveau des temporalités, au niveau des effets. Des fois, on n'est pas forcément dans des effets spectaculaires ou de démocratisation très visible, mais on est dans des effets sur de la longue durée. Là, je reviens à la question de la vie quotidienne. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup sur la démocratisation et sur comment les recherches-créations produisent quelque chose sur les publics. Ça peut être des petits effets. Ça peut être quelqu'un qui raconte son expérience à quelqu'un d'autre, qui la raconte à quelqu'un d'autre, qui l'a. Et il y a un effet de halo comme ça qui va se mettre en place et qui, sur des phénomènes sociaux, peut permettre de mieux les faire comprendre que des effets plus spectaculaires. Et le dernier point que j'ai noté, mais ça c'est la sociologue qui s'y intéresse beaucoup, c'est tout ce qu'on crée justement en observation, où les objets qui sont créés deviennent aussi, et ça avec Lucie on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est des documents sur le social, c'est-à-dire que ce qui est créé en recherche et création, ou le fait d'intégrer, d'élargir les périmètres, c'est aussi des documents sur le social, comment on compose avec les arts et la culture en fonction des évolutions aussi de la société et du fait que les industries culturelles et créatives sont en train de rentrer dans le vocabulaire plus courant, ce qui est assez nouveau, je pense qu'on est nombreux ici à travailler sur les arts et la culture, effectivement. Depuis quelques années, on voit bien que le vocabulaire et la manière de traiter les mêmes objets en termes de vocabulaire, c'est en train de changer. Et ça, voilà, c'est des questions qui sont intéressantes et à étudier, mais plus sous l'angle transversal et les effets peut-être parfois moins spectaculaires que d'aller chercher des choses très visibles. Voilà, moi c'est vraiment ce que je retiens aussi de ce qui a été dit, et ça c'est peut-être comme ça qu'on changera la recherche.
Boris, peut-être rapidement là-dessus, et puis pour revenir aussi, on a dit pour expliquer aussi un peu donc ce qu'est Focus, parce qu'on est aussi vraiment là-dedans, ce lieu de rencontre, pourquoi c'est important que ça existe, et puis voilà, de réagir.
Merci. Je pense que le point sur lequel j'aimerais insister, c'est la question de la valeur, parce que finalement, nous sous-estimons parfois ce que nous fabriquons et nous produisons, et nous expérimentons quelque chose qui n'a pas de valeur peut-être aujourd'hui, mais qui va en avoir dans 10 ans ou 20 ans. Je vous donne un exemple. Dans le luxe, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le Mucem, et il y a de très grands couturiers qui viennent, ou de designers qui viennent dans les fonds du Mucem pour aller chercher des tissus, s'inspirer, etc. Donc, nous, nous sommes sur des biens scientifiques qui peuvent à un moment devenir des biens culturels, voire des biens commerciaux, mais nous avons un problème, de mon point de vue, c'est la question des droits. Et de propriété de ce que nous fabriquons, et nous le rencontrons de manière très concrète quand on se lance dans la production d'un film. Je disais, c'est une aventure collective, et c'est souvent réunir des partenaires publics et des partenaires privés. Nous manquons de savoir-faire encore pour faire travailler deux cultures professionnelles ensemble sur le droit à l'image, sur le droit d'exploitation, sur le droit de propriété, et donc les biens, par exemple un film, ne serait-ce que tous les films de Jean Rouch ou même le film de Cousteau, Le Monde du Silence, qui est le résultat en fait d'une rencontre entre justement le monde de l'art et le monde de la science, ça a été le plus gros succès du film documentaire avec 4 600 000 entrées. Donc nous avons créé un salon qui s'appelle Focus, qui a lieu une fois par an au Mucem, et l'objectif de ce salon, c'est de faire justement rencontrer ces deux cultures professionnelles et essayer de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble sur ces questions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de producteurs, d'éditeurs qui cherchent des sujets, qui cherchent une manière de regarder la société, une manière d'interpréter ou d'observer des phénomènes sociaux. Et donc, nous avons besoin de lieux, et ICAR, je pense, a un rôle très important à jouer sur justement la rencontre de deux cultures professionnelles qui fonctionnent différemment. Et notamment, quand on travaille avec des intermittents du spectacle, il faut pouvoir les payer. Et nous-mêmes, étant fonctionnaire, nous avons tendance un peu parfois à oublier ça. Et lorsqu'on arrive dans son labo de recherche, on dit, ben voilà, je veux travailler avec quelqu'un, il est intermittent du spectacle, comment je fais? Voilà. Donc on a peut-être dans cette expérience-là de marge à innover pour la communauté et pour faire en sorte qu'on sorte de freins et de verrous, parce qu'on parlait de verrous au début, qui sont parfois juridiques, et qui ont des impacts qui font que parfois nous oublions et nous délaissons tous nos droits au profit du dire bon, mais je laisse tomber, voilà, et en fait on perd aussi une richesse et un patrimoine. Donc ça, je pense que c'est à méditer collectivement, et de ne pas laisser justement à l'industrie culturelle et créative de s'approprier une partie de la richesse de ce que nous fabriquons.
Manon Jaillet, peut-être vous voulez aussi réagir par rapport à tout ce qui a été dit.
Il y a des expériences en bande dessinée là où il y a chercheurs et dessinateurs ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est un éditeur. Ça émerge pas de l'édition de la recherche, quoi. C'est des éditeurs privés qui s'emparent de ça.
Moi, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant qu'il a aussi réuni ces interrogations sur les recherches sur l'art, le patrimoine, la culture et la question écologique. C'est comment on participe par la recherche à la mise en évidence, à la construction d'autres valeurs aussi. Celle de l'objet unique, celui dont on va jouir plus longtemps, qu'on va conserver. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant que les métiers d'art, les arts de vivre soient aussi présents dans un programme comme celui-là. Là aussi, c'est une façon différente de consommer et peut-être de jouir plus que de consommer. Enfin, c'est aussi une question qui peut être intéressante à travers des programmes comme ceux-là. Et puis, il y a une autre question, mais qui est, à mon avis, assez sous-jacente de tout ce qu'on dit là, c'est la position du chercheur par rapport à l'engagement politique. C'est-à-dire, concrètement, ce dont on parle là, c'est dans quelle mesure on a des travaux, une parole scientifique rigoureuse qui ne parle pas de sujets qui sont neutres en termes politiques et d'engagement. Et ça, cette question, c'est aussi une question qui est sous-jacente dans ce programme.
Bien sûr. Voilà. Et peut-être justement, on peut finir là-dessus avec vous, Manuel Roux.
Au-delà de la question politique en tant que telle, et aussi des questions de recherche que ça pose, de comment faire recherche autrement avec, pour les industries culturelles et créatives, c'est aussi de partir des besoins, et ce qui suppose des besoins concrets aussi des acteurs avec qui on va discuter, et ce qui suppose aussi de savoir aussi ce qu'on veut, hein, concrètement aussi. Et je crois que ça se co-construit aussi avec les acteurs de terrain. Et donc je crois que cette posture-là, qui n'est pas simple, hein, comme vous le disiez, cette posture qui forcément, elle est toujours politique, hein, encore plus sur ces sujets-là, où effectivement on va sur des sujets qui peuvent être polémiques très rapidement. Je crois que de partir du concret, vraiment, et de rattacher ça avec ce continuum dont on parlait depuis le début, c'est-à-dire entre ces deux pôles d'activité, si on peut appeler ça deux pôles d'activité, bref, qui se rejoignent, de garder cette chaîne, cette cohérence entre des industries industrialisées et des marges marginalisées, à partir de ces besoins-là pour les faire rencontrer et les faire coexister ensemble, je crois que ça déterminera effectivement la bonne posture à avoir, il me semble.
Si vous avez des questions, des remarques.
De la recherche académique par rapport au luxe, le microphone, oui. Là, actuellement, il n'y en a pas. Parce que la recherche académique, non mais c'est pour rebondir sur la recherche académique ne s'intéresse pas au luxe, parce qu'on parlait des défiances mutuelles. Parce qu'il y a une défiance à l'égard du chercheur académique, elle vient d'abord de la part de ses collègues qui se disent pourquoi on s'intéresse aux riches. Donc merci à Icar et merci à Solveig d'avoir introduit cette thématique dans le programme Icar. Donc les choses sont à construire.
Justement sur le luxe, parce que je trouve que c'est un sujet assez passionnant. C'est dans des objectifs à définir, il y a quand même cette question du luxe qui suscite quand même des interrogations, notamment sur les méthodes de travail et sur la valeur travail. C'est-à-dire qu'on a eu vent quand même de grandes maisons qui exploitaient certains artisans, certains professionnels qui de petites mains qui travaillent pour le luxe et qui évidemment ne sont pas valorisés d'un point de vue économique comme elles le devraient. Donc peut-être que cette défiance vient aussi peut-être là, parce qu'on va mettre le nez dans des caniveaux qui sont très plaisants à voir. Mais dans ce point de vue-là, au regard du projet des dalles, et donc que peut-on faire, quel est l'apport du luxe justement dans ce travail de comment créer mieux? Quel est justement votre positionnement par rapport justement à ces difficultés, en tout cas à ces points d'ombre que peuvent susciter ces...
Mon attitude personnellement, donc je ne parle qu'en mon propre nom ici, c'est de ne pas tomber dans quelque chose qui serait une façon de juger cette industrie. Pour la pédantique, je m'y intéresse en tant qu'objet d'étude historique. Nous sommes dans le monde contemporain, je l'aborde comme projet d'étude dans le cadre que celui d'Icar, c'est-à-dire voir en quoi c'est une industrie culturelle et créative, en quoi elle n'est pas comme les autres, ou elle est comme les autres. C'est le questionnement de nos deux premières journées d'accélération. Éventuellement, de rapprocher ce secteur qui se considère, comme je le disais, industrie culturelle et créative des autres, et surtout de le rapprocher de la recherche académique. Icar, c'est ça, hein. C'est de rapprocher les professionnels, le numérique et l'académique. Et donc, moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'œuvrer à ce rapprochement de l'académique et de ce secteur-là. Après, bien sûr, ce que vous dites est parfaitement juste. Et la même brochure qui va mettre en avant le fait que le luxe est emparé de la préservation de l'environnement, la brochure 2023 du comité Colbert, c'est ça, ne va pas dire évidemment dans quelles conditions sont récupérées les émeraudes, les diamants ou les petites mains de tout. Voilà. Mais je pense que là, ça sera un autre objet.
Mais comment l'intégrer du coup à un moment donné de façon objective, hein, de façon scientifique et objective, à un discours justement sur l'interaction entre l'industrie du luxe et la création, sans évoquer à un moment donné ces questionnements-là, parce qu'ils sont quand même aussi au cœur de nos préoccupations. On l'a évoqué précédemment, on voit bien dans les propos que la question justement de la valeur de l'artiste, c'est quand même quelque chose aussi qu'aujourd'hui on a tous en tête dans nos démarches de pratiques culturelles et justement face au danger imminent.
Juste un point peut-être. Alors, est-ce que ce sont les objectifs principaux du programme ICAR? C'est une autre question. Mais pour parler de ma discipline scientifique, qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication, rattachée aux sciences du discours, analyse du discours, analyse de la communication, vous avez énormément de travaux qui portent, par exemple, sur le greenwashing, hein, sur toutes ces, effectivement, toutes ces rhétoriques frauduleuses. Des grandes compagnies, mais pas seulement de luxe d'ailleurs, c'est aussi des, on le voit, des logiques de promotion, de marketing, de communication qui sont très généralisées. Donc là, il y a énormément, si ça vous intéresse, énormément de travaux qui existent sur ces questions-là.
La belle façon pour reposer la question de savoir comment le CNC subventionne le cinéma indépendant, c'est-à-dire très peu.
Peut-être une dernière question, ouais.
Pour rentrer aussi dans les objectifs qu'on a au sein d'ICAR, en tout cas des secteurs, on a un travail de cartographie justement qui consiste à essayer de rendre compte de tous ces travaux parfois éparpillés qu'on ne connaît pas très bien. Là, vous parlez de mémoire de master. Je ne doute pas de leur qualité, mais pour aller les connaître, il faut aussi pouvoir... Et ça serait un autre sujet d'ailleurs. Hein, on en avait parlé, je crois, lors du lancement à Tourcoing, c'est la découvrabilité. Il y aurait aussi, peut-être, et c'est un frein verrou, la découvrabilité des travaux de recherche sur les objets qu'on travaille.
Oui, moi, c'était juste pour rebondir par rapport à ça, pour dire que justement, je pense que tout l'intérêt de la recherche et de ICAR en général, hein, c'est qu'on soit en mesure de produire des résultats qui soient réappropriés, qui permettent de bouger les lignes et de changer les représentations et les manières de composer les uns avec les autres, mais que, en tout cas, moi, je suis sociologue, donc c'est vraiment dans les fondements de la déontologie du sociologue, on ne produit pas des résultats pour qu'ils soient appliqués directement. C'est pas, alors, et pourtant, je fais de la recherche-action et je vais très très loin sur le terrain et dans la recherche-action. Mais à un moment donné, je reste sociologue, je produis des résultats qui sont repris par des politiques, par des acteurs culturels, par des... Là, on travaille beaucoup avec le Fonds Régional d'Art Contemporain à Marseille. Hein, et les recherches-actions qu'on a produites pour eux, pour aller chercher leur public, améliorer certaines choses, hein, ils s'en saisissent, ils se les réapproprient, ils en font quelque chose. On fait bouger les lignes. Mais on fera bouger lentement, tranquillement. Et je pense que c'est tout l'intérêt de la recherche et d'allier cette dimension collaborative, travail ensemble. Mais je pense que si on était directement dans l'effet direct, on n'est plus dans la recherche. Enfin, je veux dire, c'est plus exactement la même chose. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi d'important à percevoir. Et c'est là où je reviens sur vraiment ce sur quoi j'ai introduit tout à l'heure, hein, cette question des temporalités. Et une des questions sur lesquelles on doit s'entendre, justement, avec les acteurs de la recherche et du monde des industries culturelles et créatives, on n'est pas dans les mêmes temporalités. Moi, je vois beaucoup de gens et beaucoup d'acteurs culturels avec lesquels je travaille. Ils font un projet, ils le mènent à bien. Nous, on est là, sociologues, à observer. Et puis eux, le projet s'arrête, ils passent au suivant. Ce qui est normal, c'est logique, c'est leur travail. Ben, nous, sociologues, on est encore sur le terrain et les publics nous disent, ben mince, pourquoi ils sont partis ? Nous, on aimerait bien continuer à travailler avec ces artistes et faire des choses. Donc voilà, c'est des choses à s'accorder comme ça, mais qui sont, à mon avis, dans un temps long et pas dans... On produit un résultat qui a un effet direct.
L'une des aussi, pour rebondir sur la question des petites mains, de reconnaître le travail qui est là et qui permet... là, par exemple, les représentations que l'on a dans le milieu artistique et d'autant plus dans le milieu de la musique, c'est effectivement des représentations qui sont très star system, où on se rend compte que, en fait, ceux qui sont les plus reconnus, c'est ceux, en fait, qui sont les plus marginalisés, en fait, dans toute une économie, en fait, où des travailleurs ordinaires, hein, comme dirait Marc Perrenou, qui est un sociologue du travail artistique ordinaire, vient justement remontrer tout le travail qu'une collectivité produit et reproduit sur elle-même pour permettre à ce que ces grands artistes aussi peuvent exister. Mais il ne faut pas oublier tous ceux qui se situent aux marges. Et c'est là aussi, je crois, des enjeux de Dédale de pouvoir reconnaître tout ce travail-là. Oui.
Je pense qu'il faut leur apporter ce qu'ils ne peuvent pas avoir et qui constitue une valeur ajoutée pour eux. Il n'y a qu'à ce prix-là qu'on sera entendu. Si on ne constitue pas une valeur ajoutée, et si on n'apporte pas quelque chose qu'ils sont incapables d'avoir tout seuls, malgré leur puissance, on n'avancera pas.
Oui, juste un mot. Quand cette chaîne d'hôtellerie capte, vous avez raison, c'est une captation. Peut-être une captation d'héritage, mais c'est une captation de Stendhal ou toutes les autres films. Il y a la captation. Mais nous, quand on l'étudie, ben, on la montre. C'est-à-dire que le processus, on parlait de processus et d'invisibilisation, c'est dans un premier temps, en montrant comment il y a en ce moment tout un jeu d'artification autour de la littérature et l'hôtellerie, et dans le très haut luxe parfois, hein, bon, il y a plein d'exemples, la maison Proust, mais en le disant, en le montrant, ben, vous faites un effet quand même de mise à distance et donc de conscientisation de ce qui se passe. Sinon, ils le font tout seuls, comme dit Pierre, qu'on soit là ou pas.
Merci beaucoup, en tout cas, comme quoi, effectivement, c'est un bon sujet.